Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons échanger à présent autour du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Quelles sont les causes et solutions? Maître Omar Kigalo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, est notre invité. Maître Omar, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. De la radio Capi.
Bienvenue dans cette émission et on aura également Polydor Tangeli, psychologue de travail. Le harcèlement sexuel en milieu professionnel, vous avez des cas, vous avez des témoignages, des préoccupations. Le standard est ouvert, composé des 081 82 82 827. 081 82 82 827. Debs Evita assure la mise en onde. Naomi Mutoki et Cordon et réalise cette émission. Paul Badanyama assure la retransmission live sur les plateformes digitales et radio Capi au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous allons à présent échanger, parler de l'harcèlement, le harcèlement sexuel. Vous savez, en milieu de travail, certaines femmes sont régulièrement harcelées par leurs supérieurs hiérarchiques. Cela commence par des blagues sexistes, des commentaires ou gestes déplacés pour devenir des pressions ou intimidations. L'objectif de toutes ces astuces est d'obtenir des faveurs sexuelles. Si la stratégie ne marche pas, eh bien, l'excellence, le DG, le boss ou le directeur peut sortir une autre carte pour apprivoiser sa proie. Il propose de l'argent, un contrat ou une promotion en échange des relations sexuelles. Ça s'appelle promotion canapé. Pour préserver leur dignité, certaines femmes abandonnent carrément le travail. D'autres sont remerciées sous prétexte d'incompétence alors que le problème est ailleurs. Alors comment lutter efficacement contre cette pratique dans le monde professionnel, le harcèlement sexuel? Maître Omar Kigalo est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Encore une fois, bonjour.
Bonjour monsieur Jody et merci de l'invitation.
Bien, et comment la loi définit le harcèlement sexuel?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Je vous félicite parce que votre introduction, votre speech a essayé d'interpréter ce que la loi a posé comme définition. Mais à titre historique, pour rappeler que ce comportement a été érigé en infraction depuis 2006. Avant 2006, on ne poursuivait pas pour un genre de comportement. Le 20 juillet 2006, le Parlement congolais a voté une loi relative aux violences sexuelles et a érigé en infraction et harcèlement sexuel. Avant de définir cela, parce qu'on parle de milieu professionnel, il faut rappeler à tous les Congolais, employeurs et employés, chefs ou subalternes, l'article 36 de la loi fondamentale précise que le travail est à la fois un droit et un devoir sacré. L'épithète sacré, c'est qu'il faut absolument respecter. Il ne doit être réalisé que dans le cadre du Code du travail. Et j'aime, par rapport à l'émission, ce que le même article dit. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, ses opinions, ses origines, ses croyances ou ses conditions socio-économiques. Ce tableau est à peine. Je m'en vais maintenant directement à la question épineuse. Qu'est-ce qu'on entend par harcèlement sexuel? Selon l'article 174D du Code pénal congolais, Cet article, comme je l'ai dit, a été introduit en 2006. On peut définir comme harcèlement sexuel en milieu professionnel le fait pour une personne qu'on appelle patron, excellence, DG ou encore chef, le fait pour lui d'abuser de son autorité et lui confier sa position professionnelle en exerçant sur le travail ou les salariés ou encore le subalterne de pression dans le but, comme vous l'avez dit, d'obtenir des faveurs sexuelles. Et la loi précise, il doit s'agir d'un comportement préexistant. Il doit insister. Un simple fait isolé, je donne un cas d'un patron qui, en une journée, drague son employé. Mmh. On ne peut pas l'appeler harcèlement. De manière fondamentale et c'est linguistique, les harcèlements supposent un acte répété, un acte persistant, un acte qui dure dans le temps. Et c'est là le harcèlement. Comment il se traduit ce comportement? Non seulement il est persistant, il se traduit par des gestes. Vous êtes au bureau, l'agent féminin passe, vous la giflez par ses derrière, alors qu'elle ne vous a pas permis. Vous êtes à votre bureau, vous envoyez des messages peut-être pornographiques à votre employé. Vous lui demandez des faveurs sexuelles. Donc ça peut se traduire par des actes, des gestes, des paroles, qui plus est, même par des menaces. Vous attrapez votre travailleur ou votre agent dans une fosse. Vous lui dites, si vous ne voulez pas que je vous dénonce, vous devez coucher avec moi. Si cette menace devient persistante, elle peut être considérée comme un harcèlement. Mmh. Il y a aussi, en dehors des menaces, la contrainte. Quelqu'un vient faire l'interview chez vous, je prends les quatre domaines de médias, parce qu'on a eu des témoignages, des cas qu'on a défendus, les DG de la chaîne demandent de se déshabiller.
Avant que je t'engage, bon là, tu te déshabilles.
Oh non, je voudrais aussi voir Corée. Allô?
Oui, oui. Allô? On vous écoute, allez-y, maître.
Allô?
Oui, maître, on vous écoute.
Allô? Allô?
Oui, allô, on vous écoute. Allô? Je crois qu'il a un souci avec son téléphone. On va le relancer tout à l'heure. Nous parlons du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Quelles sont les causes et solutions? Appelez-nous déjà. Vous avez des questions et préoccupations. Composez les 081-82-82-827. Peut-être, chère dame, vous avez été victime d'un harcèlement sexuel en milieu de travail, vous pouvez appeler pour nous partager votre expérience et comment l'affaire s'est soldée. Composez les 081-82-82-827. Nous recevons aujourd'hui Maître Omar Kigalo, avocat au barreau de Kinshasa à Gombe. Avec lui, on va échanger, nous sommes en train d'échanger sur cette thématique. Maître Omar, vous êtes là?
Oui, je suis là de nouveau, monsieur Jody.
Ok, allez-y.
Donc je disais donc, ces comportements persistants qui peuvent être considérés comme le harcèlement peuvent être traduits par des gestes. Je disais, votre travail là, vous lui touchez dans ses parties intimes sans son autorisation. Ça peut aussi être traduit par des paroles, des dragues répétitives. Vous savez que l'employé est une femme mariée ou fiancée ou engagée et qui ne veut pas de vous. Vous continuez à persister, à insister sur la demande de sortir avec elle ou avec lui, parce que la personne n'est pas déterminée du point de vue sexe. Donc une patronne peut également harceler un travailleur homme. Je disais aussi de menaces. On vous attaque à flagrant délit d'un cas qui peut être dénoncé et qui peut vous valoir les licenciements. Les chefs exploitent cela et ils vous demandent des faveurs sexuelles, sinon ils vous dénonceraient. J'ai parlé également des contraintes. J'ai eu un cas dans mon cabinet où une dame qui est allée faire l'interview comme journaliste, le DG lui a demandé de se déshabiller pour voir si elle a un compte télégénique. La dame a refusé et elle a chassé. Donc les telles demandes de nature sexuelle, il dit soit je vous engage, soit vous vous déshabillez. Et la cliente m'aurait dit, il y a des certaines personnes qui ont pu céder et qui sont tombées. Donc tous ces actes-là, commis de manière persistante, dans le seul but, dans la seule intention d'obtenir des faveurs sexuelles, peuvent être considérés comme le harcèlement sexuel. Chose grave aujourd'hui, la loi de 2009 sur l'enfant a même ajouté le harcèlement sur le mineur. Là, la loi est encore plus grave parce qu'il peut arriver, parce qu'on parle du travail. Le code du travail de 2002 qui a été modifié en 2016 permet à un enfant de 15 ans de travailler par dérogation expresse du tribunal. La logique voudrait qu'on travaille à partir de 18 ans. Mmh. Mais si la famille est vraiment dans le besoin et que papa meurt, le fils aîné n'a que 15 ans, on fera ce qu'on appelle en droit l'émancipation judiciaire. Le juge peut prendre une mesure pour autoriser l'aide des mêmes des enfants de 16 ans qui peuvent travailler si le juge autorise, mais en condition que ce soit des travaux légers. Alors lorsque vous faites les cas du harcèlement auprès d'un enfant, là la loi encore est rigoureuse. Vous risquez d'être puni jusqu'à 12 ans. Voilà, M. Jody, de manière synoptique et analytique, c'est qu'on peut retenir par infraction du harcèlement sexuel.
Et d'après vous,
c'est fait.
Oui, maître Omar, qu'est-ce qui pousserait ces personnes, ces supérieurs et hiérarchiques à se comporter ainsi?
Pour moi, la première raison, c'est d'abord l'ignorance de la loi. Comme je vous l'ai dit, ces faits a été érigé en infraction seulement en 2006. Avant, il y avait plusieurs faits de ces domaines et personne n'arrivait. Et les victimes et les bourreaux peut-être ne maîtrisent pas la loi. Nombreux ne savent pas que le fait de toucher son employé d'âme sur sa poitrine est une infraction d'abord d'attentat à la pudeur. Et si cela persiste, ça peut être assimilé à un harcèlement sexuel. Donc l'ignorance de la loi et de la part des infracteurs et de la part des victimes. Deuxième cause, là je suis dans l'analyse sociologique, même si ce n'est pas une raison pour justifier, mais on peut en parler, car lorsqu'on analyse un fait criminel, il faut scruter les causes pour trouver de bonnes solutions. L'abîme indécent, surtout les employés d'âme. Avant d'être juriste, avant d'être DG, avant d'être excellence, avant d'être pasteur, nous sommes humains. Il y a un esprit, une âme et un corps. Alors comment vous venez dans un bureau, même si vos intentions sont bonnes, vous êtes habillé en mini-jupe? Déjà, on l'a déjà dit, le fait d'être mal habillé constitue l'outrage public à la pudeur. C'est lui qui expose sa poitrine ou encore ses parties intimes, commet déjà l'effraction. Qu'est-ce que vous créez dans la tête de celui qui vous voit? C'est vrai qu'en droit, les mobiles et inopérants, on ne peut pas tant qu'avocat dire « Non, mon client l'a harcelé parce qu'il était ou elle était mal habillée. » C'est vrai, ça n'existait pas. Mais nous sommes en train d'analyser les causes, même du point de vue sociologique, pour découvrir ce que c'est la cause. Autre cause, c'est la légèreté de la victime elle-même. Nicolas Sarkozy aimait dire, quand il gérait, si on ne dénonce pas un mal, c'est qu'on l'adore. Comment une femme mariée, une femme engagée, une femme majeure, quelqu'un vous envoie de messages érotiques, de messages impudiques, et vous ne réagissez pas? Parce que ces gens l'attendent. Moi, j'ai toujours dit, même lorsque j'encadre des couples fiancés mariés, on n'appelle pas la femme d'autrui après 21h, on l'appelle pas avant 9h. Même lorsqu'il faut appeler, il faut avoir des raisons fondées. Alors, lorsqu'on vous pose des actes impudiques, on vous touche quand on veut, on vous appelle quand on veut, on vous dit n'importe quoi de manière impudique, et que vous ne réagissez pas, on suppose que vous aimez cela et que vous l'adorez. Donc, mais, en dehors de l'ignorance de la loi, en dehors de l'habillement indécent, il y a la légèreté de la victime. Mais si je dis, imaginez une femme mariée à qui on envoie un film pornographique et qui ne réagit pas. Déjà, le fait d'envoyer une telle image à une femme mariée constitue un harcèlement sexuel si vous le faites de manière répétée, parce que l'intention est connue. Il y a aussi l'absence de preuves. C'est d'ailleurs là le problème est puneux. Souvent dans la pratique, les victimes ont des difficultés. En droit, il y a un principe qui dit « actori cumbit probatio ». La charge de la preuve incombe ou revient à celui ou celle qui allègue le fait. Monsieur Tel me harcèle. Où est la preuve? Voilà pourquoi, si vous me permettez d'aller aux solutions, la première, c'est la dénonciation. Mais moi, j'ai toujours dit à mes clientes ou à mes clients, vous pouvez piéger la personne. On a eu un cas d'un préfet qui a harcelé une fille de 6e des humanités. Nous l'avons piégé.
Comment?
On a dit à la fille, appelle, mets le haut-parleur et quelqu'un a enregistré. On l'a enregistré. Il appelle, je t'aime, je sais si c'est le passe en droit. Ce ne sont pas des allégations vides et gratuites qui fondent la conviction du juge. En droit, il faut apporter des preuves. Vous pouvez filmer la personne. J'ai un autre cas d'une dame dont le patron s'est déshabillé devant elle. Et elle ne comprenait pas le phénomène. Elle était une ménagère, qu'on appelle généralement domestique. Mmh. Comme les patrons vivaient seuls, quand ils travaillent, le monsieur passe nu au salon. Il s'est déshabillé. Alors ça dépend. J'ai dit à la dame, bon, si vous dites à l'OPJ ou au magistrat du parquet que le monsieur est nu, on ne nous croira pas.
Il faut
si
des
vous
preuves.
Avez le téléphone, même de manière indiscrète, filmez. La dame a filmé. Et lorsqu'on a amené ces preuves. Donc, la première solution, c'est la dénonciation. La deuxième, c'est la structuration de la preuve. Réunissez des preuves. Ivoire Cell, mais qu'est-ce qu'il prouve? Vous prenez tout le message audio qu'il vous envoie. Vous les enregistrez sur un flash disk. Vous prenez tout ce qu'il vous écrit avec WhatsApp. En 2023, la loi sur le numérique a été votée. Donc même la preuve électronique est permise.
D'accord.
On peut même aller loin. Mm-hmm. Le procureur peut demander au service de télécommunications Vodacom ou tel, vérifier les appels de tel, tel. On peut toujours les sortir pour voir. Voilà. Et puis enfin, j'ai fini avec la sanction qui doit être exemplaire. La plupart de ces gens qui brillent par ces actes odieux sont des personnes haut placées. Même si on dénonce, on ne les arrête pas, on ne les poursuit pas.
Ce sont des intouchables.
Et on fait la conscience professionnelle. Mmh. Des intouchables. Il y a même des gens qui vont jusqu'à loin. Ils touchent les femmes où ils veulent, comme vous dites là. Mais il faudra apprécier, mais je dis avant que vous ne passiez à l'autre étape.
Oui.
Le phénomène canapé doit être apprécié à sa juste valeur. Lorsqu'une femme majeure accepte la proposition sexuelle d'une autre personne majeure, là on ne parle pas du harcèlement. Le harcèlement suppose un comportement persistant et un refus de la victime qui ne veut pas ce que vous faites, mais vous persistez. Et le but est d'obtenir la faveur sexuelle. Voilà pourquoi, pour poursuivre, la loi a donné une condition. On ne poursuit pas si la victime ne se plaint pas. Donc, le phénomène canapé peut être apprécié autrement. Si le patron, le DG ou l'excellence prend l'employé par force en la violant sur un canapé, là, il sera poursuivi pour viol. S'il le fait par ruse, en la droguant, ça s'est aussi arrivé, ou en la menaçant, là, ça sera le viol. Mais lorsqu'une personne majeure ayant toutes ses facultés mentales, accepte et on abuse d'eux sur les canapés. Là, on ne parlait pas du harcèlement. Parce que le harcèlement sexuel suppose l'absence de la volonté de la victime.
Oui.
Il ou elle ne veut pas vos attouchements sexuels, vos messages impudiques ou encore vos avances sexistes. Voilà un peu ce que je voulais nuancer avant de continuer selon votre orientation.
D'accord. Nous parlons aujourd'hui de l'harcèlement sexuel en milieu professionnel. Blaise Saïdi nous appelle de Kisangani. Et Rifin Bonso Delikasi. Blaise, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les thèmes du jour? Bonjour Blaise Saïdi.
Cher José, bonjour. Voilà, c'est une thématique très intéressante. Voilà, je salue vraiment Maître Kigalo. Cher Jody, c'est quelque chose qui est tellement en actualité, harcèlement des femmes en milieu de travail. C'est une entête grave aux droits humains et à la dignité professionnelle. Je dois m'épargner un peu pour la lecture des faits. Je dois aller tout juste pour économiser quand même le temps. La première question que je demande à Maître Kigalo, quelles mesures concrètes les entreprises peuvent-elles prendre pour encourager les victimes à dénoncer les cas d'harcèlement sans crainte de représailles? C'est ça la première question. La seconde question, dans quelle mesure la présence des femmes dans les postes de décision peut-elle réduire les risques de harcèlement en milieu de travail? La troisième question, pourquoi les nombreuses victimes de harcèlement préfèrent-elles se taire plutôt que
dénoncer
les agresseurs? Oui, puisque ici, j'encourage l'exposé de... Je félicite l'exposé de Maître Kigalo, étant donné qu'il avait dit « Quand on ne dénonce pas, le mal, on adore. » Et la quatrième question, cher Jody, comment intégrer la lutte contre l'harcèlement dans les politiques des responsabilités sociales des entreprises, en bref, RES. Et pour citer pour cette série de questions, quelles sanctions juridiques celles suffisent-elles à éradiquer les harcèlements ou faut-il privilégier aussi l'éducation et la prévention? Je me limite à ces cinq questions, étant donné qu'ils ont la pertinence de la thématique que j'ai aujourd'hui.
Merci beaucoup. Nous parlons du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Appelez au 081 82 82 827 pour participer à cette émission. Rifin Bonso, vous êtes à Likassi. Bonjour.
Bonjour, merci, monsieur Jody Kachama. Ainsi, je voudrais dire avec une chaleureuse voix, merci, bonjour également à notre invité, Maître Omar. C'est vrai que j'ai commencé à écouter il y a à peu près pour moi, j'aimerais saluer beaucoup plus le sujet d'aujourd'hui qui est vraiment pertinent. Aujourd'hui, dans le monde, et au Congo en particulier, pour trouver un emploi vraiment excellent, il faudrait des femmes passer par l'harcèlement sexuel. Cette pratique est en train de se passer presque partout. Parce que lorsque vous allez entendre parler, dans un cas, de la séduction d'une dame de l'entreprise X privée, ou soit Y de l'État, donc, elle a décidé, moi je ne sais pas, de passer à l'acte sexuel avec un chef direct. C'est vraiment fréquent. Maintenant, j'étais en train de chercher par quel moyen magique que l'État congolais, ainsi que la justice congolaise, va tout d'abord donner de l'accès à ces femmes-là de pouvoir comment dénoncer à de telles pratiques. Vraiment malsaine. Parce que nous sommes en train d'observer de telles pratiques presque partout.
Oui.
Je vais vous donner cet exemple, M. Jody Kacham.
Oui.
Ah oui, oui. Une fois dans l'histoire, je suis allé voir un de mes proches collaborateurs qui est en train, moi je ne sais pas, de gérer une entreprise quelconque. Et là, une fois qu'il est arrivé, je me suis rendu compte directement que il y aurait été question, moi je ne sais pas, de changer de bureau et autres. Une fois touché, moi je ne sais pas, ce bureau-là pour le changer, et j'ai vu quelques parfois que j'utilisais tomber. Et je me suis dit, c'était vraiment compliqué. Et maintenant, même mon ami là, mon proche collaborateur, lorsqu'il m'a constaté cette situation, c'est directement, bon, et c'est un ami qui connaît, et qui est un bon ami. C'est vraiment compliqué, nous sommes humains, bon, restez calme, n'allez pas dire ça aux gens. Effectivement, je ne peux pas vraiment parler de ton nom.
D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup, on vous écoute aussi difficilement. Ruffin, depuis, mais on a compris votre préoccupation. Donc, les cas de harcèlement sont fréquents dans le milieu professionnel, vous l'avez reconnu. Joseph Kalambay, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Bien, quelle est votre question ou préoccupation par rapport au thème du jour?
Oui, merci d'avoir, je vous remercie.
Allô? Allô? Bien, je pense qu'on l'a perdu. Maître Omar, qu'est-ce que vous pouvez dire aux précédents auditeurs? Allô, Maître Omar?
Bonjour. Allô, vous m'écoutez?
Oui, oui, allez-y.
Allô? Oui, je vous remercie du verbe que vous m'avez dit à nouveau. Le premier intervenant, c'est Blaise Saïdi. Je le remercie et le félicite pour sa pertinence. Mais je veux, avant de répondre à cette question, de préciser que si nous lisons l'article 174D du Code pénal congolais qui punit cette infraction, on n'a pas précisé le sexe. Donc, même l'homme peut être victime du harcèlement sexuel, il n'y a pas que la femme. Deuxième question, quelles sont les mesures concrètes que les entreprises doivent prendre pour éviter ces pratiques rébarbatives? La première mesure, c'est la sanction disciplinaire. Nous l'avons vu même au niveau des universités, souvenez-vous. Beaucoup d'étudiantes dénonçaient le harcèlement des professeurs. Et les recteurs ne sanctionnaient pas le professeur en question. Ce n'est qu'un cas isolé, il y en a beaucoup. Alors lorsqu'on ne sait pas sanctionner un mal, il se perpétue. Donc au niveau déjà interne, il doit avoir un règlement, il doit avoir des sanctions disciplinaires pour décourager. Deuxième chose, c'est le respect du Code du travail. La loi de 2002 qui a été modifiée en 2016 portant Code du travail précise les obligations du travailleur et celle de l'employé. On doit se limiter dans ces quatre. Lorsqu'on va au-delà, on viole le code du travail, il faut saisir l'inspection du travail. Autre mesure qu'il faut prendre, c'est la sensibilisation. On doit avoir, j'ai vu la fois dernière, une entreprise qui a renforcer les capacités de ces travailleurs en management et en leadership. Mais on peut aussi inviter un avocat pour expliquer aux travailleurs d'âme que lorsque vous êtes victime du harcèlement, des paroles impudiques d'un homme, des gestes bizarres, de messages sexistes, vous avez le droit de dénoncer.
Mais maître, pourquoi certaines femmes victimes ne préfèrent garder silence au lieu de dénoncer comme vous le dites?
C'est d'ailleurs, je crois, l'une des questions de Blaise Saïdi. Pour moi, la première cause de ces silences ou de cette indifférence, c'est la peur de perdre le travail. Dans la vie, il faut savoir s'assumer. Dans la vie, il faut savoir se déterminer. Elle dit, si je dénonce mon chef, je perdrai le travail. Je vous donne un cas qui est parallèle. Un Libanais qui maltraite un travailleur congolais et ses collègues ont peur d'aller dénoncer à l'inspection du travail de peur qu'il ne perde le travail. La peur de perdre son travail. Deux, la pauvreté. On a obtenu difficilement le travail. Mmh. On s'est dit, je dénonce encore, ma mère est malade, mon père a de la souffrance, qu'est-ce que je vais devenir? Donc il faut un courage, il faut un sursaut émotionnel pour dépasser. Sinon, si on ne s'assume pas, on restera ainsi. Il y a aussi la honte. J'ai pas même le cas de plusieurs cas de viol. Vous verrez une fille de 8 ans qui a été violée. Les parents vous disent, maître, si on part dénoncer, tous les quartiers seront informés et notre fille sera salie en termes de réputation. Voilà pourquoi moi je dis et je répète, un mal demeure un mal, peu importe la manière avec laquelle il a été commis. Dès lors qu'on les découvre, il faut les dénoncer et savoir s'assumer. Un leader ne se plaint pas. Un leader s'assume, capitalise les victoires, amplifie ses défauts et avance. Donc, c'est cela. Donc, les femmes doivent enlever cette peur-là. On peut perdre un travail et en trouver un autre. Mais la dignité humaine ne se marchande pas. Et pas des sanctions juridiques. L'article 174D du Code pénal congolais qui a été introduit en 2006 punit de 1 à 12 mois de prison. En termes techniques, on dit des servitudes pénales principales. Toute personne qui brille par le harcèlement sexuel. Donc, si vous dénoncez et que les juges vérifient, preuve à l'appui, que la victime a vraiment été harcelée, une telle personne peut être condamnée de 1 à 12 mois. Donc, la peine la plus minimale, c'est 1 mois, la plus maximale, c'est 12 mois. Il y a aussi l'amende de 1 million de francs congolais. Mais lorsque c'est fait sur un enfant, la loi du 10 janvier 2009 qui protège l'enfant accentue ou encore aggrave, c'est de 3 à 12 ans. Si les actes du harcèlement sexuel sont posés sur un enfant, la personne qui a commis cela sera punie de 3 à 12 mois. Monsieur Rifin Bonso, j'ai dit merci pour votre appréciation. Merci. Et il parle de mécanisme de lutte. Le code de procédure pénale a prévu le mécanisme pour saisir l'autorité judiciaire lorsqu'une infraction est commise. Lorsqu'on vous fait des avances amoureuses sans votre consentement, lorsqu'on vous pose des actes impudiques, vous avez soit le devoir de porter plainte. Souvenez-vous, j'ai dit au début, il y a une catégorie d'infractions en droit qui nécessite d'abord la plainte préalable. C'est comme l'adultère. Donc, il y a des infractions où les magistrats du parquet ne peuvent pas se saisir. La victime doit porter plainte. Je suis madame telle, je suis monsieur tel, travaillant telle place. Voilà, chaque jour, je constate tels actes qui portent atteinte à ma moralité sexuelle. Deuxièmement, c'est la dénonciation. Un collègue peut dénoncer. Moi, j'observe que ma collègue dame est victime de cela. Je peux même de manière anonyme dénoncer. Et lorsque le magistrat est saisi, il va poursuivre la personne. Voilà donc ce qui doit faire la victime pour lutter contre cette pratique qui torpille la pudeur. Parce que en droit congolais, la loi pénale protège plusieurs domaines. Et lorsqu'on parle du harcèlement sexuel, on fait allusion à la moralité sexuelle. Voilà pourquoi en 2006, on a comblé les vides, parce qu'il y avait beaucoup de faits sexuellement interdits qui se commettaient, il fallait combler. Et on a érigé aussi en infraction ces harcèlements sexuels.
Et maître Omar, on a lu tout à l'heure qu'il y a même des chefs, Excellence Balthazar, qui prennent les femmes mariées au lieu d'aller à l'hôtel. Bon, ça se fait dans des bureaux où ils prennent les femmes d'autrui, et puis voilà, ni connu ni vu.
Mais ce jeudi, là encore, il faut nuancer. Là, je veux vraiment que nous nuançons, parce que nous parlons du harcèlement sexuel, qui suppose un comportement persistant qui vous dérange. Alors, lorsque un Balthazar ou un chef Balthazar prend une collègue d'amour, une subalterne, l'amène à l'hôtel, et que cette dernière consent. Il n'y a ni viol, ni harcèlement. Les harcèlements supposent une autorité, un patron, qui veut obtenir des faveurs sexuelles. Et quand je dis faveurs sexuelles, je ne vois pas que la pénétration. Je vois tout comportement de nature à assouvir les désirs sexuels de la personne qui sollicite. Alors, lorsque la personne refuse et que ça devient dérangeant, c'est là qu'on parle du harcèlement sexuel.
Mais s'il y a un harcèlement après plusieurs temps, tout ça, il y a pression et la dame finit par céder.
Voilà d'ailleurs le terme approprié, pression. C'est cette pression-là qui dérange. Alors, la loi dit, pour de tels cas infractionnels, il faut que la victime porte plainte. Il faut qu'elle porte plainte. Parce que c'est une infraction complexe. Les magistrats ne vont pas dire, je viens directement vous saisir. Vous avez donné un cas précis. Si elle finit par céder, l'infraction tombe. L'infraction tombe. L'infraction ne sera retenue que si ses comportements préexistants dérangent la victime, elle estime qu'il faut en mettre fin. Parce que dans ce genre d'infraction, on ne peut pas s'auto-saisir, comme la loi permet ailleurs. Si un policier part, un OPJ passe en cours de route, un magistrat du parquet, il constate des causes et blessures, il peut même, sans plainte, sans dénonciation, arrêter. Mais pour l'adultère, pour les harcèlements sexuels, pour la grivellerie, pour les droits d'auteur, il faut que la victime puisse préalablement saisir. Donc, pour votre cas-là, pression, et la personne finit par céder, on ne parlera pas du harcèlement sexuel où l'infraction peut demeurer, mais on ne va pas poursuivre, car la poursuite est conditionnée à la plainte préalable. Je reprends encore mon dicton populaire, si on ne sait pas dénoncer un mal, c'est qu'on l'adore. Vous l'avez vécu pendant longtemps, ça vous perturbe, ça vous dérange, et vous ne dénoncez pas, et enfin vous finissez par céder. L'infraction peut être établie, mais les magistrats ne poursuivent pas parce que la condition sine qua non relative à la plainte préalable n'a pas été accomplie. Voilà un peu la réponse à votre noble question.
Bien, je vais lire quelques réactions des internautes. Merci à tous ceux qui réagissent sur la page Facebook d'Okapi Service par rapport à ce thème. Roméo Kituba propose ceci pour lutter contre cette pratique dans le monde professionnel. Ça doit commencer par la prise de conscience, la conscientisation des chefs, du chef lui-même. C'est question de bon sens. Crispin Mouri du Sud Kivu nous dit cette pratique fait mal aux femmes. Je connais une amie qui avait décidé de quitter son travail à cause du harcèlement. Pour lutter contre cette immoralité, je demande à l'inspection générale du travail de prévoir des dispositions et des sanctions à l'égard de ceux qui se permettent de se comporter de la sorte. Chrysostome Lebakwa, depuis Yarou, je pense que les femmes elles-mêmes ont aussi un rôle important à jouer dans la prévention de ces phénomènes. Beaucoup de situations d'abus naissent d'une ambiguïté ou d'une mauvaise perception. Ainsi, une femme qui affirme clairement son statut, mariée, fiancée ou engagée dans une relation sérieuse et qui adopte une attitude professionnelle peut déjà décourager certains comportements déplacés. Les femmes devraient dénoncer immédiatement toute tentative de manipulation ou des promotions canapées au lieu de garder le secret, parce que souvent certaines accusations qui arrivent plus tard sont difficiles à vérifier et ressemblent à des prétextes que presque toutes les femmes avancent. C'est Chrysostome Lebakwa qui nous les dit. Maître Omar, votre réaction.
Je remercie tous les auditeurs qui sont intervenus à partir de l'internet. Roméo Kituba parle de la prise de conscience. Nous l'avons dit dès l'éliminant de notre intervention, la conscience professionnelle et de l'employeur et de l'employé et du patron et du travailleur. Cette conscience qui veut que l'on agisse conformément à la loi. La conscience du travailleur lui-même. Vous êtes une employée d'âme. Vous travaillez chez un homme. Vous venez en culotte, à moitié habillée. Comment voulez-vous ne pas provoquer l'autre? Au-delà des aspects légaux, parce que la loi ne regarde pas les mobiles ou la moralité qui vous aurait conduit à le faire, mais vous-même, de quelle manière vous vous tenez devant votre chef? Lorsqu'il vous fait des avances sexistes ou des avances immorales, quelle est votre réaction? C'est ça aussi, c'est ça la conscience d'enfant de religion Roméo Kituba. Monsieur Mouri Crispin parle de l'inspection du travail. Je crois qu'il a raison. En matière du travail, il faut bien distinguer les choses. il y a les travailleurs publics qu'on appelle agents de l'État et les travailleurs privés qui travaillent chez le privé ou dans les domaines privés. Par rapport aux agents publics, il y a toute une loi qu'on appelle les statuts des agents de l'État. Il y a un code d'éthique de la déontologie des agents de l'État qui prescrivent en infraction un certain nombre d'actes. Donc, par rapport aux agents publics, lorsque un agent est victime du harcèlement, en dehors de la poursuite judiciaire, il doit dénoncer cela. Il y a même l'IJAP, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, qui est là pour vérifier si la loi sur le travail public est respectée. Donc l'inspection à ce niveau a un travail. Mon niveau privé, je prends le cas de quelqu'un qui travaille dans une entreprise X et qui est victime. Déjà, je l'ai dit tantôt, dans un contrat de travail, il y a trois choses importantes. Il y a une personne haut placée qui donne des ordres à l'autre. Il y a deux, la fourniture des prestations ou du travail. Et enfin, la rémunération. En dehors de ces trois choses, on ne peut pas évoquer notre cas. On est là, on preste des services au profit d'une autre personne à contrepartie d'une rémunération. Et le rôle de l'inspecteur du travail, c'est de veiller à ce que le contrat du travail se limite aux prescrits légaux.
Maître Omar,
l'inspecteur du travail, cette mission-là.
Maître Omar, prenons le cas d'une femme mariée qui est harcelée par son supérieur hiérarchique. Est-ce qu'elle peut le dire à son mari?
En principe, oui, parce que cette question est complexe. Cette question est très, très complexe. D'abord, du point de vue juridique, la personne harcelée a le devoir de dénoncer ou de porter plainte. Et puisqu'on est marié à quelqu'un, qu'on a une vie commune, le dire à son mari n'est pas un problème. Et je voudrais aussi répondre de manière sociologique. Comme le disait Jean-Claude Barrot dans son livre « Qui est Dieu ?», toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à entendre. Imaginez le cas d'une femme mariée qui, dans le passé, a eu des rapports intimes avec son cousin. Est-ce qu'il doit le dire à son mari une fois marié? Voilà pourquoi on dit, dans la criminologie, dans la sociologie, toute vérité n'est pas bonne. Parce que il faut aussi savoir réguler les tempéraments de son mari. De manière générale, il y a quatre caractères fondamentaux. Il y a des mélancoliques qui réagissent par tristesse, il y a des flegmatiques qui cachent leurs émotions. Il y a des colériques qui dominent et qui posent des actes graves, il y a des sanguins. Il faut apprécier les caractères de son mari. Si c'est un homme sanguin, il peut venir en lieu de travail créer un scandale. Alors on va se rappeler à ce qu'on a dit la fois dernière, la justice populaire. Nul ne peut se faire justice. Si c'est un homme colérique, il peut même tuer. Moi j'ai vu un colonel, quand on était étudiant, couper un morceau d'un étudiant qui sort avec sa copine. C'était une histoire vraie. Donc, la faculté de porter plainte est ouverte à quiconque, femme mariée, est victime du harcèlement. Mais le dire à son mari relève de plusieurs subtilités. Il faut d'abord étudier son comportement.
Bien, comment va-t-il réagir? On va accueillir Mina Mwanda de Bukavu. Nous parlons du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Vous avez des témoignages, vous avez des préoccupations. Appelez au 081 82 82 827. Mina Mwanda, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour à Maître Omar Kigali, bonjour à tout le monde qui est en train de nous suivre actuellement.
Quelle est votre question, éminent?
Oui, c'est une question très pertinente. L'harcèlement sexuel dans le milieu professionnel vraiment bat son plein record, surtout dans les entreprises. Nous avons suivi avec amertume l'histoire de Balthazar qui avait vraiment. Donner de dans son salut.
Mais je sais bien qu'à ce niveau ici, monsieur Jody, le harcèlement sexuel est une atteinte grave à la dignité humaine. Le combattre, c'est protéger l'intégrité, la carrière et la santé mentale des femmes au travail. Il est temps que chaque entreprise et chaque institution assume pleinement sa responsabilité. Je voulais poser trois questions à l'invité. Quels sont le cadre juridique que l'État congolais avait prévu pour protéger pleinement les femmes travailleuses dans les entreprises? Ça, c'est la première question. Que dit la loi quant à cette situation là-bas? La deuxième question, à compte tenu des réalités actuelles qui traversent la RDC avec
une femme trouve du travail, c'est déjà une occasion pour la famille de survivre. Maintenant, si une femme est victime de harcèlement sexuel au lieu du travail, vous savez très bien que cela va créer des problèmes entre lui et son patron. Quelles sont les autres mesures qui vont protéger la femme pour qu'elle ne puisse pas, après cette négociation, perdre son boulot? Et la troisième question, monsieur, aujourd'hui, pour citer, la femme mariée, ou soit la femme, même si la fille qui travaille, puisse subir d'actes d'harcèlement sexuel au milieu du travail. Quelle est la sanction réservée à l'auteur de cet acte ignoble, et quelles sont les autres
sanctions de... Merci beaucoup. Quelles sont les sanctions réservées au harceleur? Vous avez parlé du cadre juridique, perdre son boulot après dénonciation, etc. Maître Omar.
Merci beaucoup, Monsieur Jody. Merci également à Monsieur Mina Mwanda pour ses pertinentes questions. Je l'ai dit et je le répète, le cas Balthazar est un cas de figure différent de celui que nous sommes en train de peindre à cet instant. Un adulte et une adulte qui prennent l'engagement d'aller faire des relations sexuelles et qui les filment, il n'y a aucune infraction dès lors de deux personnes consentantes. L'infraction demeure lorsqu'on diffuse cette image immorale, ce qu'on appelle en droit l'outrage public aux bonnes mœurs. Mais deux personnes matures qui s'en vont dans un lieu intime, qui s'adonnent à leur plaisir sexuel et qui les filment, il n'y a aucune infraction. L'infraction demeurera s'il est établi que soit la victime a été droguée, soit la victime a été sous l'effet de menaces, soit il y a une contrainte. Je prends le cas d'une arme qui vous est braquée. Mais dès lors, ces causes n'existent pas. Une femme mature qui s'adonne à des activités sexuelles à un autre homme et qui est filmée, il n'y a aucune infraction du harcèlement. Mais plutôt, la personne qui va diffuser cela sera poursuivie pour outrage public aux bonnes mœurs. Quel est le cadre juridique? Comme je l'ai toujours dit, la RDC est un état de droit. Et l'état de droit n'est pas un hymne de partis politiques ou encore un credo des militants drogués, non. C'est une philosophie de gouvernance qui veut que tous les actes soient conformes à la loi. Et une case specie, dans le cas spécifique, il y a le code pénal, comme je l'ai dit, qui a été complété par la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles. L'article 3 de cette loi de 2006, qui a introduit l'article 174D, du code pénal congolais, protège la femme. On sait que lorsqu'elle remarque qu'il y a des actes impudiques, qu'il y a des paroles sexuelles, qu'il y a des actes immoraux à son égard, qu'il y a des contraintes immorales, qu'il y a des menaces tendant à obtenir d'aide et faveur sexuelle, de dénoncer et d'obtenir la condamnation de la personne qui l'a fait. Il y a un autre cadre juridique. En 2014, une loi a été votée pour mettre en pratique l'article 14 de la Constitution sur la parité homme-femme. Il a été démontré qu'une femme qui accède à l'emploi a le même droit et avantage qu'un homme. Autant on doit respecter l'homme, autant on doit respecter la femme. Il y a aussi un autre cadre juridique, c'est le Code du travail. La loi du 16 octobre 2002, qui a été modifiée le 15 juillet 2016. Cette loi précise les obligations du travailleur, homme ou femme. Il doit être permanent au travail. Il doit rendre l'outil de travail après la résolution du contrat. Il doit respecter les clauses du contrat. L'employeur, lui, doit payer pour le travail rendu et mettre le travail dans de bonnes conditions. Tout comportement tendant à léser les travailleurs sur le plan de sa dignité, surtout sexuelle, doit être puni. Voilà donc, très cher Emina Mwanda, les cadres juridiques qui protègent la femme. Alors, il a posé une question pertinente. Si une femme
mariée dénonce
et qu'on arrive à licencier. Mais le code du travail que je viens de citer, il rige ses faits à la façon des licenciements abusifs. Il n'est pas interdit à un patron de licencier. Parce qu'en droit, il y a deux sortes de contrats. Il y a les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail à durée indéterminée. Dans les deux cas de figure, lorsqu'une faute lourde est commise, par exemple, le travailleur a volé, la loi permet au patron de licencier, de mettre fin au contrat. Mais en dehors de la faute lourde, on ne peut pas, pour une faute légère, chasser les travailleurs. Donc une femme qui est
viré de son travail pour avoir dénoncé a le droit de saisir l'inspecteur du travail. Et l'inspecteur déclarera abusif et illégal, je dirais même irrégulier, ses licenciements.
Mais on peut la licencier, maître Omar. On peut la licencier, non, la faire partir sous d'autres prétextes. On dit par exemple qu'elle est incompétente ou elle fait pas très bien son travail et puis on la met dehors. On va pas évoquer ces cas-là.
Ça doit s'éprouver, monsieur Jody. Je l'ai dit au début, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Quand vous licenciez, dans la lettre des révocations, la loi vous recommande de préciser les motifs. Nous les renvoyons parce que il ne vient pas au travail. Montrez-nous les listes de présence. Montrez-nous, on les renvoie parce qu'il n'est pas performant. Montrez-nous les différentes lettres des blancs que vous avez faites. Donc il ne faut pas se limiter à dire « elle a été incompétente, encore faut-il apporter des preuves ». Alors s'il est établi que la personne a été licenciée pour avoir dénoncé un cas de harcèlement sexuel, en tout cas une telle révocation serait abusive, et non seulement elle va réintégrer son travail, l'inspecteur du travail va aussi soumettre va obliger à l'employeur de payer une amende. Donc, mais dans la pratique, nous conseillons souvent à nos clients de démissionner. Parce qu'en dehors de la loi, il y a un climat de paix qui doit régner entre les travailleurs. Comment un patron qui a été entraîné en justice par son travailleur peut encore collaborer avec lui? La loi permet que lorsqu'on l'a licencié de manière abusive, que l'employé reprenne son travail et qu'il ait le même salaire, mais sur le plan sociologique, sur le plan humain, nous conseillons souvent aux travailleurs de démissionner. Lorsqu'on démissionne, on a droit au décompte final. On a droit à un certificat d'aptitude des services rendus.
Mmh. Alors, parce que l'atmosphère du travail, l'atmosphère ne sera plus bien au travail après.
Exactement. Après, c'est comme en matière de bail. Mmh. En matière de bail, le bailleur se mal comporté. Après avoir écouté, l'OPJ rétablit la relation. Il y a la conciliation. Mais moi, je conseille à mes clients locataires de partir.
Oui.
Parce qu'en dehors de la loi qui existe, il y a des démons, il y a des gens animés de mauvaises intentions. Donc la paix est un élément. Oui, vous dormez la nuit, il vient jeter n'importe quoi. Moi, j'aime la paix.
D'accord.
Voilà, chez nous, en droit, on dit, mieux vaut un mauvais arrangement plutôt qu'un bon procès.
D'accord. Maître, on va accueillir Claude Kiosongolo de Lubumbashi. Bonjour, Claude.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au harcèlement sexuel?
Voilà, ma préoccupation est la celle-ci. J'espère qu'il existe une infraction appelée homosexualité. Les relations sexuelles entre deux hommes.
Bon, aujourd'hui, on ne parle pas de l'homosexualité. Claude, on parle du harcèlement sexuel en milieu professionnel.
La question est celle-ci. Permettez. Voilà. Là, c'était une forme d'une introduction. Ma question est la celle-ci. Est-ce qu'il peut y avoir l'infraction d'harcèlement sexuel entre deux hommes travaillant dans une même société ou une même entreprise, entre un chef et un inférieur?
Ah, d'accord. C'est noté. Merci beaucoup, Claude. Je vais lire la réaction de Doulay depuis Kalemi. Non, il est plutôt, c'est Doulay Kalemi depuis Kisangani. Cette situation est devenue une monnaie courante. Dans le monde du travail, les femmes sont devenues des objets sexuels au bureau. Les chefs, les directeurs, les chefs des divisions couchent avec ces collaboratrices femmes au bureau. Alors que c'est punissable par la loi, l'État doit sanctionner tous les chefs qui font cette bêtise. Dès qu'on l'attrape, il doit être révoqué de ses fonctions et être puni par la loi. Mais notre État ne tient pas compte de cette bêtise qui détruit le monde professionnel à RDC. Nous devons lutter contre cela car nos valeurs sont mises en jeu et c'est surtout des grandes personnes qui sont honorées dans ces pays qui font ces genres de pratiques. L'État doit ouvrir l'œil. Voilà, c'est ce que nous a dit c'est ce que nous dit Doulay Kalemi depuis Kisangani. Maître Omar, à vous la parole.
Merci beaucoup monsieur Jody. Je commence par monsieur Claude. D'ailleurs, il a soulevé une bonne problématique. Un député l'année passée, je crois, Steve Mbitaï, a proposé une loi contre l'homosexualité. Malheureusement, le projet n'est pas passé. De manière claire, on doit se le dire, il n'y a pas une loi qui interdit ces pratiques. C'est plus des faits sociaux que nous dénonçons. Mais plutôt, le mariage homosexuel est interdit. Car le droit congolais, à travers le code de la famille, ne conçoit le mariage qu'à l'égard d'un homme et d'une femme. Mais dans la vie courante, ces pratiques-là ne sont pas vraiment punies de manière directe. D'où l'occasion d'interpeller le Parlement qui doit ériger en infraction l'homosexualité. Par rapport aux hommes qui peuvent aussi harceler les autres, oui,
harceler les hommes.
L'innovation importante, oui, c'est l'innovation importante de la loi 2006. Avant 2006, il n'y a que la femme qui était victime du viol. Après 2006, même un homme peut être victime du viol. Ce qui veut dire un homme peut violer un autre homme. Une femme peut aussi violer un homme. C'est l'innovation magistrale de la loi de 2006. Et ce faisant, si on se réfère à la logique de cette loi de 2006, un homme peut aussi être victime. Parce que la loi parle d'une personne ayant une fonction élevée qui sollicite des faveurs à l'égard d'une autre. On n'a pas dit personne de sexe masculin ou de sexe féminin. Il y a un droit, il y a un principe qui dit si la loi n'a pas distingué, on n'a pas le devoir de distinguer. L'autre qui parle de CD qui couche avec les femmes, je l'ai encore dit, la relation sexuelle entre majeurs de manière consentante n'est pas une infraction. Elle devient infractionnelle lorsqu'elle est faite à l'absence du consentement de la victime. Mais si cette femme-là qui travaille accepte de coucher avec son CD, cette femme-là consentit, il n'y a aucune infraction. Mais du point
quel que soit les lieux où se passe l'acte, au bureau par exemple, comme il a dit.
Là, maintenant, c'est un autre cas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit l'attentat à la pudeur ou encore l'outrage à la pudeur. C'est quoi l'outrage à la pudeur? C'est l'effet de poser un acte impudique dans un lieu public. Là, il faudra apprécier les lieux. Et tout dépend de chaque culture. Si vous allez en Afrique du Sud et que vous vous promenez avec la poitrine dehors, ce n'est pas un cas impudique. Donc, le bureau étant un lieu public destiné à recevoir l'administration, lors on pose un tel acte, si la dame a accepté, il n'y a pas harcèlement, il n'y a pas viol. Il y a plutôt outrage public à la pudeur. Surtout si la porte est ouverte, quelqu'un voit cela. Donc, l'outrage public, c'est un fait immoral commis en public, qu'il y ait des gens ou pas. Dès lors, l'endroit dans lequel le phénomène s'est commis est public, on peut les poursuivre. Pour ces cas, alors si la dame a réellement accepté, ok, il n'y a aucune infraction de viol ou encore d'attentat à la pudeur, il y a plutôt l'outrage public à la pudeur qui suppose le fait pour des adultes de commettre des actes impudiques dans un lieu public. Je parle des cas des gens qui s'embrassent au stade de martyr ou encore en cours de route. Même s'il n'y a personne qui passe, le fait de commettre un fait immoral sexuel dans un lieu public,
d'accord,
peut vous exposer à la poursuite.
Pour conclure,
je demande aux femmes victimes de dénoncer et à l'État judiciaire de sanctionner, car ça dénature la société.
Bien, Maître Omar Kigalo, merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger autour du harcèlement sexuel. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette émission de La Vie au quotidien, au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.